Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Nellie Bly, l'adolescente de Pittsburgh s'est imposée comme journaliste d'immersion en Pennsylvanie. À 23 ans, elle rêve d'intégrer le New York World, le prestigieux journal de Joseph Pulitzer. Avant de l'embaucher, celui-ci la met au défi de se faire interner dans un asile pour femmes afin d'en tirer un reportage en immersion. Nellie accepte sans savoir comment son rédacteur en chef pourra l'en faire sortir. Épisode 2. Une vie d'aventure. Nous sommes le 25 septembre 1887. Nellie vient d'arriver à l'asile de Blackwell. Elle observe les patientes et les infirmières autour d'elle dans la salle de réfectoire et comprend vite que celles-ci sont des indigentes et des laissées pour compte de la société. Mais les infirmières pourraient être des leurs. Elles exercent un métier mal payé et peu reluisant réservé aux femmes pauvres. La barrière qui sépare les patientes des soignantes est fine. Après le repas, Nellie est emmenée dans une salle de bain. Une infirmière peu avenante lui demande de se déshabiller complètement. L'infirmière l'oblige ensuite à entrer dans la baignoire d'eau glacée pour faire sa toilette. Une autre patiente, au regard éberlué, qui se parle à elle-même est censée la récurer. C'est un véritable supplice. Nellie sort de la baignoire, tremblante de froid. On lui tend des sous-vêtements sur lesquels elle peut lire les initiales de l'établissement. La journaliste découvre ensuite sa chambre. Une cellule mal isolée, balayée de courants d'air. Elle se plaint car elle ne trouve pas normal qu'on ne lui offre pas des conditions de vie décentes puisque l'établissement est financé par l'État. L'infirmière la rabroue. Elle devrait montrer sa gratitude plutôt que de jouer la princesse. Après sa première journée à l'asile, Nellie, sans dévoiler sa couverture, recommence à agir normalement. Ici, tout ce que les patientes peuvent faire est pris pour un acte de folie. De toute manière, les traitements sont si rudes qu'une personne saine d'esprit ne le resterait pas longtemps. Les infirmières sont d'une perversité sans nom. Elles se plaisent à humilier les patientes et à les rouer de coups, parfois jusqu'à la mort. Les aliénées les plus problématiques sont attachées entre elles pour qu'elles ne puissent pas se déplacer. Les médecins, quant à eux, sont incompétents ou négligents, voire les deux. Dix jours après son arrivée, des médecins viennent la chercher pour l'exfiltrer de l'asile. Joseph Pulitzer a tenu sa promesse. Nellie quitte l'établissement soulagée. Elle écrit un long article qui bénéficie d'un succès retentissant. Elle pointe les mauvais traitements infligés aux patientes et la vétusté des infrastructures. En récompense de son talent et de son audace, elle est embauchée au New York World. L'affaire de l'immersion dans l'asile fait tant de bruit que la ville de New York diligente une enquête. Nellie est interrogée. Grâce à elle, la ville réforme l'asile de Blackwell. Son expérience paraît en librairie sous la forme d'un livre intitulé « 10 jours dans un asile ». Miss Bly est maintenant l'une des signatures les plus appréciées du journal. Elle propose de nouveaux sujets d'immersion à Pulitzer qui la sait sans limite. Elle infiltre l'entourage du narcotrafiquant Edward Phelps, autour duquel gravitent de nombreux politiciens et des célébrités. Elle se fait embaucher dans une entreprise d'empaquetage et sort un papier intitulé « Nellie Bly, esclave blanche ». Le travail répétitif à l'usine est finalement un nouvel avatar de l'esclavagisme. Elle rejoue le même scénario dans une entreprise de placement de domestiques. Les lecteurs raffolent de son style vif et piquant. En revanche, les patrons la redoutent. Après de nombreuses immersions couronnées de succès, Nellie cherche une nouvelle bonne idée. Un jour, elle débarque dans le bureau de Pulitzer et lui fait une folle suggestion. Un tour du monde en moins de 80 jours pour battre le record imaginaire de Phileas Fogg, le personnage créé par Jules Verne. Pulitzer éclate de rire. Une fille ne fait pas le tour du monde toute seule, c'est ridicule, voyons. À la rigueur, il pourrait envoyer un homme. Nellie, avec l'aplomb qu'on lui connaît, voit rouge. Si son rédacteur en chef envoie un homme à sa place, elle partira en même temps que lui pour le compte d'un autre journal. Pulitzer réfléchit et finit par convoquer Nelly. Elle partira dans le cadre d'un grand reportage où elle sera officiellement chronométrée et enverra ses articles par télégramme dans toutes les villes où elle s'arrêtera. Nelly est ravie. Elle se fait confectionner une robe dans un tissu à carreaux solide qu'elle pourra porter pendant 3 mois et sélectionne les affaires qu'elle emportera dans une seule valise. Des dessous, un chapeau, une robe de chambre, des tas de mouchoirs, des stylos, du papier et un gros pot de cold cream. Le 14 novembre 1889, le grand départ est donné depuis le New Jersey sous les hurrahs d'une foule composée de curieux et de lecteurs du New York World. Nelly Bly embarque sur l'Augusta Victoria, un paquebot qui s'apprête à traverser l'Atlantique pour rejoindre Southampton en Angleterre. À cette occasion, la journaliste intrépide découvre qu'elle a le mal de mer. La traversée, qui à l'époque dure 1 semaine, est un véritable cauchemar. Des passagers lecteurs de son journal se moquent même d'elle. Ce moment est assez difficile pour Nelly, car outre son record, elle doit pouvoir montrer qu'une jeune fille peut voyager seule. Et dans le fond, c'est ça le véritable défi qu'elle doit relever. En Angleterre, elle est accueillie par un correspondant du New York World qui l'informe que Jules Verne demande à la rencontrer. Après un bref passage à Londres, Nelly reprend un bateau pour traverser la Manche, puis un train pour se rendre à Amiens. Jules Verne l'attend sur le quai de la gare en compagnie de sa femme. Il se montre très chaleureux avec cette jeune aventurière, lui fait visiter sa maison et lui montre le planisphère qu'il a utilisé pour écrire son roman. L'écrivain en profite pour donner une interview au New York World où il reconnaît que ce tour du monde est une bonne idée, même pour des Américains. Après quelques heures avec le maître de la littérature fantastique, Nelly saute dans un train pour Brindisi, tout au sud de l'Italie. Là, elle dicte son article au télégraphiste très étonné par ce que lui raconte cette demoiselle. Il n'a jamais entendu parler de New York. Nous sommes déjà le 25 novembre 1889. 9 jours sont passés. Nelly embarque dans un autre bateau pour traverser la Méditerranée et le canal de Suez. Son odyssée devient très populaire. Les passagers font courir le bruit qu'elle est une riche héritière qui voyage avec pour tout bagage une brosse à cheveux et des billets de banque. À New York, Pulitzer cherche une astuce pour relancer l'intérêt de ses lecteurs. Il organise un grand jeu. Les acheteurs du journal peuvent parier sur le temps que mettra Nelly à faire le tour du monde à la seconde près. Le gagnant remportera un voyage en Europe. Jusqu'à 600 000 lecteurs par jour suivent désormais les pérégrinations de la journaliste. Alors qu'elle se trouve bloquée à Hong Kong, Nelly découvre qu'un autre journal, le Cosmopolitan Magazine, lui a donné une concurrente en la personne d'une certaine Elizabeth Bisland. La rumeur raconte que cette journaliste jouirait de passe-droits qui lui permettraient de faire partir n'importe quel bateau depuis n'importe quel port selon son bon vouloir. Nelly est affligée, car le mauvais temps retarde sa traversée du Pacifique. Celle-ci a tout de même lieu par gros temps. Alors que Nelly vomit tripes et boyaux, le capitaine du bateau lui promet de faire tout son possible pour rallier San Francisco dans les meilleurs délais. À la mi-janvier 1890, elle retrouve enfin le sol de son Amérique adorée. Elle monte aussitôt dans un train Pullman affrété spécialement pour elle par le New York World. La locomotive prend tous les risques pour le record de Miss Bly. Elle passe même sur des ponts branlants qui risquent de s'écrouler. Mais l'audace s'avère payante. Nelly arrive dans sa gare de départ dans le New Jersey le 25 janvier 1890, soit 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 45 secondes après son départ. La foule en délire salue la victoire de la journaliste qui a battu Phileas Fogg, mais aussi Elizabeth Bisland qui a fini par déclarer forfait. À nouveau interviewé, Jules Verne célèbre la victoire de la demoiselle. Il n'avait jamais douté de son succès que son intrépidité laissait présager. Nelly Bly est devenue une héroïne pour l'Amérique. Ses fans s'arrachent ses portraits en robe à carreaux. La journaliste savoure ce bonheur en attendant une nouvelle aventure inattendue pour une farouche indépendante, le mariage. En 1895, Nelly a 31 ans. Elle tombe amoureuse du millionnaire Robert Seaman, un industriel spécialisé dans la fabrication de bidons métalliques. Il a 73 ans. Elle quitte le journalisme et s'investit à ses côtés dans son entreprise. Nelly devient patronne par procuration. Elle est pétrie d'idéaux et de tout ce qu'elle a appris en immersion dans des usines. Elle veut améliorer les conditions de vie de ses ouvriers. Outre de bons salaires, ceux-ci bénéficient désormais d'une bibliothèque et d'un centre de loisirs pour leurs enfants. Ces belles années ne durent pas longtemps. 9 ans plus tard, Nelly est veuve. À 40 ans, elle se sent prête à diriger l'entreprise que son mari lui a léguée. Elle participe même au dépôt du brevet de nouveaux bidons de lait empilables. Mais être dirigeant d'entreprise ne se décrète pas. Nelly ne voit pas que ses directeurs détournent de l'argent et l'usine fait faillite. Pour fuir ses créanciers, elle s'installe au Royaume-Uni où elle reprend son métier de journaliste en couvrant le phénomène des suffragettes. En 1914, elle devient correspondante de guerre pour le New York Evening Journal. Elle est la première femme reporter à se rendre sur un champ de bataille. Nelly Bly meurt à 57 ans en 1922 d'une pneumonie. Ses confrères lui rendent hommage en la désignant dans sa nécrologie comme la meilleure journaliste des États-Unis. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Nelly Bly. Merci de l'avoir écouté. Ce récit a été réalisé en partenariat avec Madame Figaro. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle d'Au cœur de l'Histoire et vous pouvez donc nous laisser des étoiles. À bientôt.